Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman et aujourd'hui nous allons parler des Beatles et de John Lennon.
La vie est un roman avec
Palem Candilier, auteur de The Beatles,
et
Hugues Blineau, auteur de Vie et mort de John Lennon et de Le jour les Beatles se sont séparés.
Il y a quelques jours, le documentaire Get Back replaçait les Beatles au cœur de l'actualité. 6 heures d'un film documentaire autour des sessions Get Back de janvier 1969, remontées à partir de nombreux rushs. Des images le plus souvent inédites, permettant de pénétrer au cœur du processus créatif du plus célèbre et influent groupe de l'histoire. Le plus frappant ici, comme protégé des effets du temps, ses visages et ses corps jeunes, ceux de John, Paul, George et Ringo, sous les lumières changeantes d'un studio de cinéma. En écho à Get Back, film de Peter Jackson, nous vous proposons un dialogue, une rencontre croisée entre deux auteurs, Palem Candilier, auteur d'un livre sur le White Album aux éditions Densité, entre essais biographiques, textes critiques et regards assertions plus personnelles autour de l'œuvre, et Hugues Blineau, auteur de Vie et mort de John Lennon, publié en 2021 et Le jour où les Beatles se sont séparés, tous deux aux éditions Mediapop, de fiction autour du groupe de Liverpool. Palem, la première question que l'on peut être amené à se poser, c'est pourquoi le double blanc ? Pourquoi as-tu choisi d'écrire sur ce disque des Beatles plutôt que le Sgt Pepper ou Revolver ?
Alors, c'était surtout une décision commune avec mon éditeur, Hugues, qui s'occupe donc des éditions Densité, et qui a vraiment à cœur une certaine exigence et une certaine identité pour la collection Discogonie, celle où il y a donc tous ces albums de rock, de pop et de chansons qui sont abordés livre par livre par différents auteurs. J'avais fait le Nirvana et puis quand il s'agissait de faire un Beatles, encore une fois comme pour Nirvana, il s'agissait de faire pas n'importe quel Beatles et en l'occurrence peut-être de marquer le coup en ayant cet album blanc en ligne de mire. C'est-à-dire de vraiment se partir du principe qu'on va aborder dans la collection un gros morceau qui est à la fois mythique et peut-être pas si bien abordé que ça dans la littérature autour des Beatles. Moi-même, j'étais assez surpris de voir à quel point c'était un album qui était assez vite contourné, alors qu'on parle quand même d'un album double, d'un album qui est truffé de chansons qu'on connaît tous et toutes, et puis un album qui m'avait l'air de pouvoir dire beaucoup de choses du groupe qui à ce moment-là est vraiment dans un tournant où, comme on le sait, on se rapproche plus de la fin que du début. Résultat, voilà, le blanc s'est imposé à nous deux dans nos discussions et je suis parti dans cette direction.
Est-ce que tu peux, avant de parler plus précisément du livre, nous rappeler les principes et le cahier des charges qui sont ceux de cette collection Discogonie, qui compte aujourd'hui une vingtaine de livres autour du rock, du Melody Nelson de Serge Gainsbourg, au Horses de Patti Smith.
Alors la collection Discogonie, elle se propose d'aborder, de consacrer un livre en fait à chaque fois à un album rock, pop, chanson, qui a marqué son temps. Donc il y a tout, de Dominique à Rage Against the Machine, en passant par The Cure, Alan Mashung, Radiohead, récemment les Stranglers, PJ Harvey, Nico. Donc énormément d'albums et d'artistes abordés sous un jour à la fois analytique, étant donné qu'il y a une construction, il y a un plan imposé à chaque livre, donc c'est-à-dire introduction, contexte, pochette, et puis, enfin, les conditions d'enregistrement aussi, bien sûr, et puis un titre par titre, donc un chapitre par chanson, en proposant à chaque fois un regard à la fois documenté et personnel sur chaque chanson pour apporter un autre angle de vue sur cette musique. Il y a, comme je le disais, un aspect vraiment d'identité très forte dans Discogonie par ses choix éditoriaux, alors que pour Bashung c'était fantasy militaire bien sûr, pour les Stranglers c'était black and white, donc des albums peut-être un peu moins parfois un peu moins évidents, pour Nirvana c'était In Utero par exemple, donc on était sur des choix aussi éditoriaux un peu marqués, assez forts, assez assez clair qui donne envie de découvrir tous ces albums qui parfois ne sont pas assez bien abordés ou méritent justement leur livre, leur monographie.
Nous sommes donc dans La vie est un roman sur Aligre FM et nous allons parler du roman de la vie des Beatles, ou en tout cas de passer quelques temps avec eux au tout début 1968. Et je vais te poser une question, Palem, toi qui es l'auteur de ce très beau livre aux éditions Discogonie consacré au double blanc, l'Inde, est-ce que c'est là où tout a commencé? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a conduit les Beatles à partir en Inde, dans quel contexte et ce que l'Inde leur a apporté artistiquement dans un second temps?
Alors l'Inde, on en parle beaucoup comme d'une espèce de passe, de période, et aussi de vacances, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un séjour, alors c'est ce qu'on va appeler une retraite spirituelle, étant donné qu'ils vont dans un ashram pour y suivre des enseignements de méditation transcendantale. C'est une retraite spirituel donc, qui était quelque chose aussi, il faut le dire, d'un petit peu en vue, hein, à la mode à l'époque. Il y a aussi des notions de vacances, parce que pour la première fois, peut-être que les quatre Beatles se retrouvent dans des vraies situations de plus ou moins de déconnexion avec tous leurs impératifs, leur rôle de musicien superstar, et puis aussi le poste de businessman qu'ils ont commencé à se donner avec la société Apple Corps qu'ils fondent avant de partir. Au-delà de ça, c'est un séjour qui en fait va avoir beaucoup plus d'importance qu'on ne le pense, et étant donné que c'est là que vont être écrits une grande majorité des titres de l'album blanc, et puis c'est aussi là que se vont jouer des choses comme par exemple tout simplement une multiplication des contacts entre John Lennon et Yoko Ono qui vont correspondre de façon à la fois artistique et intellectuelle sur énormément de sujets. Ça va favoriser leur rapprochement. Le fait que George Harrison tout d'un coup se retrouve au centre du groupe parce que tout ça a été fait sur son impulsion à lui. Donc on est aussi sur un moment dans ce séjour, on est sur un moment où la carte change, les positions se reconfigurent et on se met à écrire avec juste des guitares acoustiques, on oublie toutes les machines de Sgt Pepper, et tout d'un coup on se met à refaire des chansons à l'ancienne, j'ai envie de dire, et c'est quelque chose qui va plutôt bien marquer la dernière période des Beatles par ailleurs. Somewhere in the black mining hills of Dakota, there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible.
Ce séjour en Inde va être vécu de manière différente par les quatre Beatles. Est-ce que tu peux nous le préciser? Il y avait ce temps sans doute d'émancipation de George Harrison, tu l'as rappelé. Et pour les trois autres?
Pour les trois autres, donc, John est dans un entre-deux où il va arrêter de planer au LSD. Après, il aura d'autres addictions un peu plus graves, mais il va être beaucoup plus sobre et peut-être beaucoup plus maître de sa créativité et de ses émotions. Ringo va partir au bout de 10 jours parce que c'est moins son dada, et puis il a des problèmes de santé qui ne lui permettent pas de profiter pleinement du voyage. Et puis Paul aussi va suivre Ringo 2 ou 3 semaines plus tard, voilà, en concluant qu'il avait vu ce qu'il avait à voir et qu'il avait envie de retourner en Angleterre pour revenir aux affaires musicales et du coup aux affaires tout court. C'est surtout John et George qui vont y rester le plus longtemps, qui vont être les plus impliqués, qui vont avoir aussi le plus d'attentes, d'où le départ fracassant qui aura lieu basé sur des rumeurs d'harcèlement sexuel de la part du Maharishi Mahesh Yogi, qui est donc le gourou qui les avait invités à venir dans cet ashram dans l'Inde. Mais effectivement, ils commencent à vivre des choses, tous les quatre commencent à vivre des choses différentes de façon séparée et collective. Ils sortent vraiment de leur zone de confort, donc ça aura des conséquences pour le meilleur comme pour le pire.
Est-ce qu'on peut dire que pour George Harrison, la deuxième chose très très importante dans sa vie, en dehors de la musique, c'est la spiritualité ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment en jeu à ce moment-là ?
Alors oui, il me semble que c'est Geoff Emerick, l'ingé son des Beatles, qui a créé un très très grand livre que je conseille vraiment à tout le monde, en studio avec les Beatles, qui est vraiment un truc incroyable, une chronique quasi quotidienne incroyable de cette épopée du studio, hein, de la musique, de la pop plus exactement. Geoff Emerick disait, George va devenir, la spiritualité va avoir une part de plus en plus grande dans sa vie, au point de lui faire perdre un peu de son sens de l'humour. George Harrison avait un côté pince sans rire, tous les quatre avaient énormément d'humour. George se distinguait beaucoup par une espèce de timidité et d'humour assez pince sans rire. Et il semblerait qu'il ait pas mal perdu dans cette affaire. Il ait pris un peu trop de gravité et qu'il ait eu une phase vraiment... Enfin, il ira jusqu'à faire enregistrer chez Apple Corps des chants indiens, des chants de Hare Krishna, Enfin, on sent que pour lui, ça devient une histoire très très sérieuse qui va le guider jusqu'à la fin de sa vie, hein, étant donné qu'il va faire de la méditation et continuer de suivre certains enseignements hindous très très tard dans sa vie. L'effet positif, c'est qu'effectivement, ça le remet au centre du groupe et ça change un petit peu la donne, parce que il va pouvoir prendre un peu d'ascendant sur les autres. Mais l'autre effet, effectivement, c'est qu'on va avoir un George Harrison un peu plus grave, un peu plus, j'allais dire terre à terre, mais vraiment plus mystique, religieux et très 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 obsédé par ça. Donc c'est pareil, on n'a pas envie d'en tirer, on en tire plutôt un constat mitigé.
Le retour en Europe et évidemment en Angleterre, les Beatles vont après quelques semaines ou quelques mois se lancer dans la confection de ce nouveau disque, qui est un double album, le double blanc. Est-ce que tu peux nous parler des Escher Démos ? De quoi s'agit-il ? C'est quelque chose qui va influencer la genèse du disque.
Alors, les Escher Démos, ce sont toutes les démos que les Beatles enregistrent à leur retour d'Inde chez George Harrison, qui s'est donc, comme tous les autres, équipé de ce qu'on pourrait appeler les prémices du home studio. Hein. On a un magnétophone, on a la possibilité d'enregistrer en plusieurs pistes, donc on peut coucher sur bande des idées de façon assez rudimentaire, mais quand même avec une petite démarche de travail derrière. Il faut savoir que ce sont, alors hormis tout ce qui a pu filtrer dans les coffrets anthologie en 95 et 96, ce sont peut-être les seuls enregistrements qui ont été vraiment publiés officiellement, qui sont une trace de la méthode de travail des Beatles. Donc, c'est-à-dire vraiment les entendre gratouiller, les entendre tâtonner, les entendre poser des bases de chansons qui plus tard vont avoir des arrangements complètement fous délirants et différents. Là, tout d'un coup, on a une plongée subite dans leur créativité, dans leur façon d'écrire, chose qu'on n'aura à aucun autre moment, à part Get Back, hein, dont le documentaire où on verra des choses s'écrire au fur et à mesure. Mais c'est peut-être le premier témoignage le premier et seul grand témoignage de cette méthode de travail que les Beatles retrouvent à ce moment-là. 1, 2, 3, 4. I look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps.
problems you sow, all the troubles you're reaping. Steal my guitar, gently weeps. I don't know why nobody told me how to unfold your love. I don't know how someone controlled labels and so.
Et donc, les chers démos, finalement, ont fait l'objet d'enregistrements pirates, mais on ne les retrouve officiellement qu'en 2018, dans la réédition, après 50 ans, de ce double blanc. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Forcément, il y avait des versions pirates qui avaient déjà filtré, donc en fait pour les fans hardcore c'est pas du tout une grande surprise. Et puis il y avait quelque chose qui avait été publié dans le coffret Anthologie 3, donc on peut les retrouver à ce moment-là. Mais oui, c'est vraiment une parution à l'occasion des 50 ans c'est vraiment un complément à écouter. Moi j'ai toujours du plaisir à écouter ces alors que bon, ça fait un peu bonus, ça fait un peu cadeau, ça fait un peu truc de connaisseur pour les fans, mais il y a vraiment un plaisir à écouter ces chansons qui sont en train de se faire sous nos oreilles à ce moment-là. Et puis ça donne un autre regard sur ce double album qui, du coup, est plein d'autres couleurs et beaucoup plus garni de couleurs d'ailleurs.
Eh bien justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du double blanc ? Garni de couleurs, c'est un disque où il y a une très très grande variété stylistique, comme jamais sans doute dans l'histoire des Beatles, à tel point que d'ailleurs que le disque devait s'appeler House of Dolls.
Oui, exactement.
Si je me souviens bien.
Poupées, ouais.
La maison des poupées.
Une maison de poupées.
Donc on rentre dans une maison où il y a plein d'objets très disparates, hétéroclites. Et c'est donc le double blanc. Alors quelle est véritablement l'identité de ce disque ? En a-t-il une ? Plusieurs ? Est-ce que c'est un album, une succession de moments solo ? Ou est-ce que c'est encore un disque des Beatles ?
Bah oui, c'est John Lennon qui disait que c'était une collection de chansons solo. D'ailleurs, il était très content, il était beaucoup plus content des chansons et de son travail en particulier sur l'album blanc que sur Sgt. Pepper ou même sur Abbey Road, hein, je pense. Oui, c'est complètement, et c'est lui qui disait donc justement que c'était une collection de chansons. Donc c'est mes chansons et tout le groupe qui m'accompagne, c'est les chansons de Paul et tout le groupe qui l'accompagne, etc. Bon, bien sûr, la vérité elle est quelque part, parce qu'il y a aussi des moments de création collective, il y a des moments de joie, il y a des moments de solitude aussi. Faut bien le dire, il y a des morceaux qui sont enregistrés seuls de chez seul ou en totale autarcie, surtout dans le cas de Paul McCartney qui a envie de se prouver qu'il est capable de faire des morceaux seul de façon un peu forcenée parfois. Après, c'est difficile de le caractériser, cet album. Je trouve que on est passé du psychédélisme à la psychanalyse. pour être un peu provocateur. Pourquoi ? Je le développe plus dans mon livre, donc je vais être très rapide là-dessus. Parce que je pense que c'est un album qui fait traverser tellement d'émotions différentes, tellement de phases, tellement de niveaux de violence sonore ou textuelle, tellement de sujets différents et tellement de façons d'exprimer ces émotions que je pense que c'est un album qui en fait a aussi plu au public sur une part inconsciente, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui nous appellent tous, des émotions, des envies, des peurs, puis toute l'aura notamment vis-à-vis de Charles Manson par exemple, qui font qu'on s'est vraiment, le public s'est vraiment accaparé cet album au fur et à mesure des décennies comme de quelque chose qui est moins évident que Sgt. Pepper, mais qui justement referme toute la complexité humaine, y compris dans ces moments les plus naïfs, les plus gratuits, les plus médiocres aussi. Et je pense qu'on peut tous avoir cet attachement quasi psychanalytique à cet album qui fait appel vraiment à notre inconscient plus qu'à beaucoup d'autres choses qui pouvaient appeler dans Sgt. Pepper.
Est-ce à dire que l'on s'approche un peu plus de l'intimité en fait des musiciens, et on peut à travers cet album, pour reprendre un petit peu ce que tu viens de dire, et on peut par exemple penser à Julia, qui est une sorte de chanson extrêmement intime, une des plus bouleversantes écrites par John Lennon par exemple. Est-ce que ça a voir avec ça ?
Ah oui, tout à fait, ouais. Il y a cet aspect-là, il y a de l'analyse. John Lennon, assez poussé par Yoko Ono d'ailleurs, à s'exprimer beaucoup plus sur ses émotions, sur son histoire, sur ses ressentis. John Lennon qui tombe la tête la première à mots beaucoup moins couverts que dans Sgt Pepper's ou dans d'autres albums. Donc là, oui, on est face à quelque chose d'extrêmement à nu. Hein. C'est pas pour rien que l'album a ce côté très dépouillé, très peu produit. On est sur un groupe qui enregistre très à nu, qui est à poil et qui du coup s'embarrasse beaucoup moins de faire des métaphores comme « Je suis le morse, attention, cling cling ». Y a beaucoup moins de ces phases-là, de décryptage à faire. Et de fait, on est face à un groupe qui se cache beaucoup moins. Et je pense que c'est aussi ce côté psy dont je parlais qui fait qu'on peut tous développer un affect avec cet album-là. Just to reach you,
c'est mise à nu, mais peut-être, sans doute, sur certains titres, en tout cas, c'est ce que tu viens d'expliquer, Palem. Mais le double blanc, c'est aussi déjà peut-être le temps des dissensions, et voire même cette séparation qui est finalement proche, moins de 2 années plus tard. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette idée, de cette image peut-être de la séparation et des dissensions, même dans le processus de réalisation du disque en studio?
Ah ben ça a complètement éclaté, hein. Ringo Starr est parti quelques semaines alors que l'album était loin d'être terminé. L'album a d'ailleurs été terminé avec un retard monstrueux. Il a été finalisé en 5 mois, beaucoup d'éparpillements, beaucoup de projets personnels. Apple Corps qui commençait vraiment à prendre leur temps et leur énergie. Et puis bien sûr les égos à gérer de ma chanson elle va être comme ça, moi je veux mon titre comme ça, moi je veux mon single comme ça, etc. Donc toujours la guerre Lennon-McCartney sur le single Hey Jude Revolution qui présente quand même 2 aspects extrêmement opposés de la création des Beatles. Sur les envies sonores de faire parfois très peu léché dans le cas de Lennon ou alors de continuer de faire quelques bluettes un peu orchestrales dans le cas de McCartney. Donc ouais, on est face à une exacerbation de tout ça et ça donne des beaux moments, tout comme ça donne l'impression qu'on écoute un groupe qui est effectivement en train de se peut-être pas de se dissoudre tout de suite, mais de se distendre beaucoup. Moi j'aime bien penser que si les Beatles ne s'étaient pas séparés, ils auraient peut-être tiré un album de plus et ils auraient fait une grosse pause et ils auraient peut-être même eu d'immenses difficultés à se réunir créativement. Étant donné que il y avait trop d'envies individuelles marquées pour laisser de la place à du collectif.
En studio, les Beatles travaillent de manière souvent séparée. Un membre du groupe, John Lennon par exemple, dans un studio, Paul McCartney dans un autre studio, c'est vraiment comme ça que ça se déroulait, où il y a encore des moments véritables de communication et où le sens du collectif revient?
Si, il y a des moments où ils font les cons ensemble, il y a des moments où ils enregistrent ensemble. Hein. On ne faut pas oublier que Julia avait été complètement supervisée par Paul McCartney au niveau de la réalisation, que Goodnight de Ringo Starr...
À la fois
Pardon ?
À la voix ?
Oui, Ringo Starr. Oui, pardon, Goodnight, chantée par Ringo Starr, a été écrite par John Lennon et a été aussi supervisée par Paul et John dans un but de soutien, en fait, enfin dans un but d'encouragement, parce que Ringo avait un trac immense à chanter cette chanson. Donc du coup, il y a des moments de collectif, il y a des moments de tout n'est pas noir, tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Il y a encore, de toute façon, c'est les choses que le documentaire de Peter Jackson vont remettre à la surface, hein, le fait qu'il y avait encore de la camaraderie et un sens de l'unité qui existait encore entre ces quatre personnes, ça il faut pas en douter. Le fait est que c'est quand même beaucoup plus marqué que les liens se distendent et qu'on est devant un groupe qui même plus qui se cherche, mais qui a fait un petit peu le tour de, peut-être je vais être un peu provocateur, qui a fait un groupe qui a peut-être fait un petit peu le tour de la notion de groupe et qui du coup l'interroge. C'est-à-dire, bon, bah voilà, on peut faire une chanson. Alors, ils l'avaient déjà fait un peu dans le passé, mais on peut faire une chanson. On a besoin d'être combien pour cette chanson ? 2, 3, peut-être pas 4. Étant donné, je crois qu'il n'y a que la moitié, il n'y a que 16 chansons sur 30 où il y a les 4 Beatles ensemble, en fait, qui participent. Et je dis bien qu'ils participent, même pas qu'ils sont en même temps dans la même pièce dessus, qu'ils participent. Donc ça implique des moments où machin est là et truc n'est pas là et qu'on refait des ajouts d'instruments à 3 jours plus tard et puis enfin voilà. Peut-être que on veut absolument voir une séparation à venir, mais peut-être qu'il y a aussi un groupe qui s'interroge sur ce que c'est d'être un groupe. Why don't we do it in the road?
Très bien, Palem, j'aimerais que tu nous parles de cette histoire un peu extravagante que tu racontes dans ton livre autour de Revolution 9, et puis nous dire aussi quel statut a cette pièce sonore réalisée par John Lennon et Yoko Ono, ce collage sonore très très long que Paul McCartney avait du mal à supporter.
Oui, d'autant que Paul prenait le risque de passer pour le conservateur de l'histoire, alors que c'était lui qui avait introduit l'idée des bandes avec Tomorrow Never Knows dans Revolver. Donc c'est lui qui faisait déjà, qui s'intéressait à Stockhausen, qui vraiment avait un pied dans l'avant-garde, dans toutes les avant-gardes musicales. Il était très intéressé par très très intéressé par ce qui se faisait en musique expérimentale. Effectivement, alors Revolution 9, c'est un peu le sketch de cette la réalisation de Revolution 9 et le sketch de cet album, étant donné que ça se passe pendant quasiment toute une journée, toute une soirée. Et à l'époque, donc on a un petit peu de mal à se rendre compte, mais à l'époque, donc Revolution 9 étant un collage, il faut que pour faire ce collage, qu'il y ait toutes les boucles, enfin tous les extraits sonores qui soient à disposition. Et pour qu'ils soient à disposition, il faut que ces extraits sonores tournent en fait en permanence, qu'ils soient en permanence accessibles, que tout rentre dans une console et que John et Yoko poussent une manette ou l'autre pour que ce son rentre et soit enregistré sur la bande, et puis comme ça ils font apparaître et disparaître un certain nombre d'extraits sonores qui à la fin donnent ce collage. Le tout, c'est que pour faire tourner ces extraits sonores, et ben il faut donc qu'il y ait des boucles magnétiques qui tournent en permanence, et ça va être le travail de dizaines de techniciens d'Abbey Road de tenir avec un crayon une bande pendant des heures et des heures sans savoir ce qui se passe, parce qu'ils n'ont pas de retour, donc ils ne veulent pas du tout entendre ni leur extrait, ni le résultat final en direct. Et voilà, il faut imaginer un des studios anglais les plus célèbres et les plus prestigieux et les plus riches être mobilisé voilà, de toutes parts dans tous les bâtiments, avec ses assistants qui tiennent un crayon, puis autour du crayon il y a une boucle qui tourne dans des magnétophones, et puis tout est relié sur la console, et tout ça pour deux personnes qui sont en train de faire les apprentis sorciers derrière leur console. Et c'est assez fou comme image de s'imaginer ça, parce que c'est maintenant on fait les choses avec trois clics. À l'époque, fallait pour faire un collège sonore, il fallait un niveau de quand même, fallait avoir des moyens pour que ce soit fait en live en tout cas. Et voilà. Et résultat, Revolution 9, paradoxalement, alors bien sûr, personne, tout le monde, personne sur un album blanc idéal qui ne ferait qu'un disque, personne ne la garderait. Pourtant, c'est la pièce aujourd'hui, c'est la pièce de musique concrète la plus possédée dans le monde entier, étant donné que comme l'album blanc est dans une grande partie des ménages du monde entier, et bien, il y a cette pièce qui vient, qui est un petit peu l'infiltré, et ce qui fait qu'il y a une immense, il y a des millions de gens dans le monde qui ont au moins une pièce de musique concrète dans leur discothèque.
Merci Palom.
Merci à toi. Hugues Blinot, tu es l'auteur de deux ouvrages consacrés au mythe des Beatles. Tu as d'abord paru Le jour où les Beatles se sont séparés chez Mediapop en 2020, maison d'édition chez laquelle tu as également donc publié très récemment Vie et mort de John Lennon. Donc un an d'écart entre ces deux livres. Et ce qui est intéressant dans notre rencontre croisée, c'est que là où moi je suis plus sur le champ de l'analyse et de la recherche documentaire, toi tu es sur une forme de alors j'ai pas envie de dire docu-fiction, mais tu es plus dans la fiction en fait, étant donné que tu es dans une création originale pour le coup qui n'est pas sans être documentée, mais qui se projette sur ses impacts, sur ses moments que sont la séparation des Beatles et le Vie et mort de John Lennon. Est-ce que déjà tu pourrais nous dire assez généralement qu'est-ce qui a guidé ton choix d'écriture vers ces sujets?
Alors c'est vrai qu'il y a ce terme d'exobiographie qui est un terme qu'on utilise parfois dans les médias pour qualifier ces romans ou ces récits qui sont imprégnés de réalité et consacrés à des personnalités connues ou moins connues, mais en tout cas des personnes réelles. Et c'est ce qu'on retrouve dans ces deux livres. En vérité, je me suis... évidemment beaucoup documenté, pardon. Et c'est en tant que simple lecteur que j'ai eu envie de me pencher véritablement ensuite dans une fiction autour des Beatles. J'ai été assez fasciné par le potentiel de fiction contenu dans ces récits autour du groupe, et je parle d'essais biographiques. Tout à l'heure, tu as évoqué le livre de Geoff Emerick, qui était leur ingénieur du son depuis leur tout début en 62 jusqu'en 70, qui les a accompagnés toute leur carrière. Et ce que Geoff Emerick raconte parfois dans son livre, c'est vraiment propice à la fiction. Il y a des scènes qui sont absolument romanesques, en studio notamment. Et je crois que ça a été vraiment l'un des points de départ. Et il y a également eu aussi le livre de Philip Norman, qui est un biographe célèbre, qui a consacré des ouvrages sur McCartney et Lennon. J'ai d'abord été un simple lecteur, et ensuite il y a eu cette envie de fiction qui est arrivée aux alentours de 2018.
D'accord. J'aime beaucoup ce concept d'exobiographie. Et je me disais qu'en fait, tu t'inscrivais un peu dans la lignée d'ouvrages qui effleurent un peu le même concept. Je pense notamment à David Foenkinos avec son Lennon, qui imagine Lennon sur le divan. Et aussi à cette bande dessinée qui s'appelle Yesterday, qui part du principe que quelqu'un voyage dans le temps et dame le pion aux Beatles en leur piquant toute leur dans les années 60, en leur piquant d'avance toute leur création. Est-ce que ce sont des choses aussi dont tu t'es nourri pour ces deux ouvrages?
En tout cas, je ne suis pas allé vers les ouvrages et les textes dont tu parles. Je me suis surtout, à partir de ces deux, trois ouvrages de référence, je me suis vraiment lancé dans un travail d'écriture. Ce que j'ai fait le plus, finalement, c'est m'imprégner de musique. Et en particulier pour le premier texte, Le jour où les Beatles se sont séparés, qui est paru en 2020, j'ai vraiment vécu avec eux pendant une année. Et je me suis vraiment imprégné beaucoup de musique. Et d'ailleurs, paradoxalement, puisqu'il est question du moment de la séparation et qu'on est déjà en 1970, j'ai beaucoup écouté, évidemment, les Beatles, mais encore davantage les premiers albums solo de chacun des membres du groupe, et en particulier le Plastic Ono Band, ce disque de John Lennon, qui est un disque anti-Beatles, un disque de mise à nu totale, et un disque pour moi l'un des plus bouleversants de l'histoire du rock. Je m'en suis véritablement servi pour imaginer cette journée du 10 avril 70, et en particulier ces scènes où j'imagine John Lennon dans sa grande maison de Titchener's Park tenter de construire une chanson et de jouer pour lui-même tout seul. Et c'est vraiment l'esprit de ce disque solo que j'ai essayé de capter en essayant avec mes mots et en imaginant une situation sans aucun élément biographique qui m'a vraiment guidé. En ce qui concerne la journée du 10 avril 70, ce qui est tout à fait fascinant quand on regarde les ouvrages de référence, c'est que finalement, il y a très peu de faits avérés concernant les Beatles eux-mêmes. C'est évidemment un jour qui est une sorte de point de départ, et c'est une véritable déflagration progressive qui va toucher des millions d'individus. Mais en dehors du fait que George Harrison enregistre une émission pour la BBC et une émission autour de la spiritualité dans laquelle il ne parlera pas du tout des Beatles, en dehors de cette veillée qui a eu lieu avec des fans au QG des Beatles en plein cœur de Londres, au 3 Savile Row, il y a très très peu de faits avérés. Et donc ça me laissait en fait toutes ces zones grises, toute attitude pour imaginer une fiction dans laquelle j'ai essayé vraiment de me placer dans la peau de chacun d'entre eux, de rentrer vraiment dans la psychologie de chacun et faire circuler quand même cette sensation de mélancolie, ce sentiment qui parcourt, je crois, le livre. Je parle du premier livre, Le jour où les Beatles se sont séparés.
Oui, justement, c'est le travail que tu as refait d'ailleurs, donc avec Vie et mort de John Lennon, qui parle, qui aborde cet impact de l'annonce de la mort de John Lennon la nuit du 8 au 9 décembre 1980. Est-ce que justement pour ce deuxième livre, ça a été différent ou plus compliqué, étant donné qu'on est, alors je trouve que ça rejoint ce que tu dis, parce qu'on est aussi sur quelques heures d'abasourdissement mondial, qui finalement sont plus documentés, mais qui laissent quand même aussi plein d'ouvertures possibles sur ces heures. Et puis tu écris aussi dans ton livre des impacts qui arrivent plusieurs années après. Enfin, on ne va pas tout dévoiler, mais tout ne se passe pas à l'instant T. Mais il y a quand même un côté un petit peu plus documentaire, un peu plus récent aussi, et puis beaucoup plus, presque j'allais dire, médiatique. Est-ce que ça a été plus difficile pour toi de refaire cet exercice d'impact sur quelque chose qui, là où la séparation des Beatles se sentait peut-être un peu plus, a été extrêmement brutale?
Alors pour y répondre, c'est vrai que le contexte d'écriture a été totalement différent. Étant donné que ce texte, je ne devais pas du tout l'écrire, mais que je l'ai écrit animé vraiment par un sentiment d'urgence en à peine 3 semaines. Ça a été extrêmement rapide. Tout est arrivé presque sur un fil. Et il y a eu finalement peu de corrections. C'est ce moment de réclusion forcée que nous avons connu en mars 2020 qui m'a amené à faire ce travail d'écriture. Mais en même temps, je crois qu'il correspond complètement avec cet événement. Parce que là, je parlais il y a quelques instants d'un sentiment de mélancolie, de ce jour gris que pouvait être le 10 avril 1970. Mais là, c'est la déflagration. Et il y a une sorte d'atomisation aussi dans le texte qui apparaît, avec ces moments parfois très courts où un individu il repense à John Lennon. Et puis des moments de sentiments plus profonds, je pense, plus intenses, plus violent aussi. Et je crois que cette construction plus atomisée, plus fragmentaire, correspond plus à la violence du choc qui est celui de cette mort brutale de Lennon. On est confronté au deuil. Et c'est une traversée du deuil jusqu'à ce que la lumière revienne. Et qui m'a conduit dans l'écriture.
Our life. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away. Somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like stars.
Fait ce travail d'exobiographie, de fiction, dans lequel, donc pour Vie et mort de John Lennon, tu mélanges des personnages qui sont donc sur lesquels tu imagines la réaction de personnages, de personnalités réelles qui ont côtoyé John Lennon, que ce soit de façon quasi récente, enfin quasi immédiate, ou beaucoup plus lointaine dans le temps. Je voulais savoir du coup par rapport à ça quel est tu y mélanges à ces personnalités, à ces témoignages de personnalités réelles, des personnages que tu inventes, que tu rajoutes en fait à cette, dans cette formule chimique. Quel était pour toi justement l'intérêt de ne pas faire que soit des anonymes absolus dont tu pourrais tirer des histoires individuelles auquel on pourrait tous se rattacher d'une façon ou d'une autre, ou au contraire ne pas mettre justement uniquement que des personnalités qui réagiraient à ça? Pourquoi ce mélange de grandes figures et d'anonymes dont tu imagines la vie new-yorkaise?
Alors, une vie new-yorkaise ou ailleurs, c'est vrai qu'il y a différents personnages dans différentes régions du monde. Pour moi, c'est évidemment la question de la fiction, c'est le pouvoir de la fiction d'imaginer ou de réimaginer des personnes absolument et complètement fictives à côté de personnalités réelles. Et du coup, il y a une sorte de trouble qui peut se créer entre ce qui relève de la fiction, de la réalité. Est-ce que c'est documentaire? Est-ce que, en effet, Ringo Starr pense la même chose que ce que j'évoque dans le livre au moment où il atterrit en urgence, revenu de vacances aux Bahamas pour être présent immédiatement après la mort de John Lennon. Rien n'est sûr. Mais en même temps, il est question à chaque fois, je pense, d'intimité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ne pas revenir sur ce que des journalistes, des essayistes feraient beaucoup mieux que moi avec leurs armes et des ressources et des connaissances qui, pour d'ailleurs certaines, sont largement partagées. Moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment la question de l'intimité et comment très profondément, enfin en tout cas assez profondément ou le plus profondément en nous, cet événement peut nous marquer, que nous soyons des proches des Beatles ou des anonymes. Et je crois que la musique aussi et des Beatles nous touche peut-être pas de manière quasi universelle, mais peut toucher énormément d'individus. Et il est évident également que la mort brutale de grandes personnalités dans lesquelles nous identifions, comme celle de Lennon, peut aussi nous bouleverser. Et je pense qu'on a pu être bouleversé par la mort de grands musiciens ou d'artistes que l'on vénère, comme si c'était des proches. Et c'est cette question-là aussi qui est un petit peu à l'œuvre dans le livre. Et pour moi, c'était important qu'il y ait finalement à part égale, une représentation à part égale d'anonymes et de personnes réelles proches de Lennon. C'était important aussi qu'il y ait cette proximité avec des personnalités réelles, et y compris évidemment ses plus proches, Yoko et Sean. Et je pense que les moments les plus qui m'ont, en tout cas après relecture, me touchent le plus, ou sont des moments un peu pivots dans le livre, c'est lorsque je parle évidemment de Yoko et de cette traversée de deuil qui est la sienne, et les souvenirs également de Sean, son fils de 5 ans, qui était quelques étages plus haut sur les lieux mêmes de l'assassinat.
C'est la nuit en plein jour. Elle n'arrive pas à se lever. Elle n'arrive plus à entrouvrir le battant des fenêtres comme elle le faisait avec tant d'insouciance dans le salon de Titanost. Les rideaux sont fermés. Les volets sont fermés. Les portes ouvrent sur des trappes et d'impossibles pentes. Le grand large, un noir infini. Elle ne voit pas le jour. Elle étire sa douleur pour en desserrer l'étreinte sans y parvenir. Elle tente par tous les moyens d'en atténuer les effets venimeux. Impossible. Sang d'encre, parfum d'abîme. Aucun retour parmi les vivants. Ses membres se dérobent sous un poids qui ne lui appartient plus. Une légèreté apparente contredite par les faits. Car des pierres lestent ses chevilles. Des pierres lestent ses chevilles et l'empêchent de marcher autour de son lit, comme dans toutes les pièces du Dakota. Alors, elle préfère y rester, dans cette pièce qui n'est déjà plus leur chambre, mais plutôt l'une des rives du malheur, d'où elle ne revient pas. Pas encore. Ou si peu. Dans les meilleurs moments, lorsque quelques forces lui reviennent, elle arrive à consulter. Elle donne son avis au sujet des affaires courantes, mesure l'état des finances, mais le plus souvent se ravise et suspend les décisions pour ne pas appartenir au monde d'après. Une posture qu'elle sait intenable si elle doit durer trop longtemps. Alors elle se relève, ajuste son oreiller, puis approche de ses lèvres une tasse remplie d'un des seuls liquides qu'elle arrive encore à avaler. Il y a cet effumé au parfum d'enfance et toutes ces décoctions comme des extraits de vie que ses médecins ont préparé pour elle, qui l'aident à tenir heure après heure, jour après jour. Yoko le sait, un autre jour viendra. Alors, elle arrivera à se lever. Ouvrir les volets, se rendre compte que le printemps aura lavé le ciel et chassé le blanc infini pour couvrir Central Park de lumière. Peu de choses auront changé, mais il sera temps de s'occuper de Sean, l'aider à grandir et vivre avec.
Et à ce sujet, est-ce qu'il y a d'autres aspects de cette mythologie Beatles que tu te verrais aborder, alors pas forcément sous la même façon, d'autres façons, hein, sous d'autres formes de fiction, mais est-ce qu'il y a d'autres périodes comme ça qui te tiennent à cœur et qui pourraient vouloir exprimer les mêmes choses ou alors d'autres choses complètement différentes, mais est-ce qu'il y a des périodes ou des aspects qui t'intéresseraient?
Alors, il y a des aspects qui m'intéressent. Alors, c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, je pense, après avoir écrit deux livres, en avoir terminé avec les Beatles pour passer à d'autres mythes du rock, puisque ces textes s'inscrivent dans une logique de cycle où j'aborderai d'autres grands musiciens avec d'autres angles. Mais c'est sûr que les années de formation et cette rencontre à l'adolescence entre Paul McCartney et John Lennon et cette relation fusionnelle qu'ils ont pu avoir l'un avec l'autre peut être un angle intéressant. Et le parcours spirituel de George Harrison également, mais peut-être en dehors du champ de la musique, et ce qui pose aussi d'ailleurs la question de la créativité, hein. C'est vrai que dans le cas des Beatles, c'est mon regard aussi, hein, de spécialiste et surtout de fan, me fait penser que finalement la vie après les Beatles pour chacun d'entre eux, la vie créative et artistique, va être nettement moins intéressante. Et finalement, les plus beaux disques de chacun des membres du groupe, c'est immédiatement après la séparation, et notamment le All Things Must Pass d'Harrison, ou le Plastic Ono Band pour Lennon, ou Ram de McCartney, et que finalement c'est un peu la queue de comète. C'est comme si finalement ils avaient pu profiter de l'élan de créativité collectif pour leurs premiers essais solo, mais qu'ensuite ranimer la flamme a été plus compliqué. Même si McCartney a fait de très belles chansons et a pu au cours de sa très longue carrière rester créatif, rien n'est facile.
D'accord, bah, merci beaucoup, c'est très très complet. Et puis peut-être peux-tu nous donner une petite, un petit aperçu justement de la suite, ou tu ne veux rien révéler de plus?
On va se projeter en 1990 très probablement, et autour de la reformation du Velvet Underground, avec une autre construction narrative et une rencontre avec Lou Reed. Et ça, c'est ce qui pourra être, j'espère, le troisième volet de cette suite de textes autour du rock. Mais toujours avec cette volonté de s'inscrire dans le roman et la fiction.
Merci beaucoup.
Merci Palem.
On rappelle donc aux auditeurs d'Aligre FM, en remerciant beaucoup la programmation de nous avoir invités à cet échange, que vous pouvez retrouver donc nos deux ouvrages, donc Hugues Blineau chez Mediapop avec Le jour où les Beatles se sont séparés et Vie et mort de John Lennon.
Et le livre de Palem Candillé après son premier texte In Utero consacré à Nirvana. C'est le White Album, le double blanc, qui est sorti il y a quelques mois aux éditions Densité, dans cette très belle collection qui s'appelle Discogony. Je vous conseille très fortement de lire ce texte à proximité peut-être des fêtes de Noël.
Merci à tous.
Bonne journée. We'll be right back.
Nous étions donc dans La vie est un roman sur Aligre FM 93.1. Merci de votre écoute. Bonne journée.